ici Oliver Jones, pianiste de jazz. Vous êtes à l'écoute de CKIA FM 88.3 à Québec. Tendez l'oreille, on parle de vous.
Quand j'étais petite fille, ma main est bien la prise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, ça vaut rien de politique. Deux hommes déshabillés, de drogue commandée, d'amour et de tuer. Et si tu me paries les réponses aux grands défis.
Alors, bienvenue à Ainsi Soit-Il. Vous êtes accompagnée de vos féministes libertaires uniques en son genre, en leur genre à Québec, pour une autre émission de Ainsi Soit-Il. Et aujourd'hui, je suis en compagnie, alors moi c'est Hélène, je suis en compagnie de Evelyne Penneau.
Bonsoir, bonsoir.
Et de Véronique Laflamme à la mise en onde. Et ce soir, on va avoir une émission thématique. Encore une fois, on va parler de femmes et pauvreté. On est en campagne électorale actuellement. On parle beaucoup d'économie, mais on va parler d'une économie sous un autre angle, c'est-à-dire l'angle économique et la pauvreté des femmes tout particulièrement. Alors, on va commencer après la première pièce musicale. On va commencer avec une petite revue de l'actualité parce qu'il se passe beaucoup de choses ces temps-ci. Et après ça, ben, on abordera notre thème de front. Alors, on commence la musique avec une chanson de Sylvain Lelièvre qui s'appelle « Le député » parce qu'on est dans le thème électoral, évidemment.
Le député modèle se reconnaît à son zèle, quasi apostolique pour la chose publique, toute sa qualité s'affirme en vérité, au risque qu'on m'engueule, qu'elle tient d'un... Sa gueule, la gueule de tout temps, il est représentant, qu'il doit se garder, cependant les idées, c'est l'opium de ce métier, mon homme, le député parfait n'en a presque jamais. Quand il vient d'aventure à la législature, on le voit exemplaire devant ses exemplaires, et des plus grands quotidiens, qu'il ouvre l'air de rien, sans passion ni transport, à la page des sports, et des problèmes étranges, quelquefois, le dérangent, dans sa méditation, sur sa noble mission, par bonheur, le parti a tout pensé pour lui, spécialité les grèves, un vil et puis, sa crève. Le bon représentant, s'il lui reste du temps, prend soin de visiter les gens de son comté, le curé, le notaire et les hommes d'affaires, affaires de tactique capitale, politique, la messe le dimanche, le col et la blanche, un contrat d'un million pour son cousin fuyant, du reste et à tout prendre. Pour mieux se faire entendre, il convient de parler le bon joual sans sacré. Je sens que mon couplet à quelques gens déplaît, que je perds des appuis et des bourses aussi. J'ajoute résolu que je n'ai rien voulu que peindre en me grattant les députés d'antan. Un ministre m'assure que la législature n'en garde plus depuis longtemps et qu'aujourd'hui le député modèle se reconnaît à son zèle, quasi apostolique pour la chose publique.
Alors, vous écoutez Ainsi Soit-Il sur les ondes de CKIA FM, Radio Basse-Ville. Et on commence avec une petite revue d'actualité. Alors, il s'est passé plusieurs choses en fin de semaine et dans la semaine passée. Donc, je vais vous parler. Et la nouvelle la plus désolante que j'ai à vous annoncer. Désolante, vraiment, parce que On vous a beaucoup parlé pendant nos dernières émissions du projet de loi C-484 et de du projet conservateur de donner un statut juridique au fœtus par le biais d'une loi qui criminaliserait les agressions contre les femmes enceintes. Alors, avant les élections fédérales, on s'était fait dire que ce projet de loi serait mort au feuilleton puis que les conservateurs ne remettraient pas la question du droit à l'avortement sur la place publique. Mais le Parti conservateur était en congrès la fin de semaine passée à Winnipeg et les militants conservateurs, eux, ont ramené le débat au sein de leur parti. Et en fait, c'est une proposition qui a été amenée par une militante de la Saskatchewan qui a ramené le projet de loi, dans le fond, l'idée de donner un statut juridique au fœtus par le même genre de projet de loi que le projet de loi C-484. Et au début, la proposition aurait été huée par les conservateurs, mais finalement, a passé à 58% des votes des délégués qui étaient présents.
La droite se fait dépasser par la droite.
Eh oui.
C'est dégueulasse.
Mais en fait, c'est un peu l'analyse qu'on avait ici à Sisquatel, c'est que le Parti conservateur a bien beau annoncer qu'il retoucherait pas ce débat-là, mais les militants à la base de leur parti, ben, sont pas mal plus à droite. Alors, le ministre de la Justice, Rob Nicholson, a voté, lui, en faveur de cette proposition-là, tout en précisant qu'il déposerait un nouveau projet de loi à ce sujet au cours de la prochaine session parlementaire qui débutait aujourd'hui. Alors, ça sera à surveiller.
Très, très, très attentivement.
Et dans un autre ordre d'idée, on sait que, bon, le gouvernement fédéral a des positions sur la criminalité assez conservatrice, hein, comme plusieurs autres de leur position. Et une nouvelle que je trouvais intéressante, l'Ordre des infirmières a réclamé, dans le fond, l'implantation de centres d'injection supervisés pour les utilisateurs de drogues intraveineuses ici au Québec. Alors, c'est un peu une réponse à ce que notre ministre de la Santé, Yves Bolduc, en fait notre ancien ministre, je devrais dire, étant donné qu'on est en élection, avait déclaré que les Québécois n'étaient pas prêts à accueillir de tels centres d'injection supervisés. Il avait déclaré ça cet été. Alors, ce que la présidente de l'Ordre des infirmières a déclaré, elle a dit, le ministre a dit qu'il n'y avait pas de consensus, alors nous, on va aider à bâtir le consensus. Alors, je trouvais que c'était une position intéressante. Puis, la position qu'elle amène, dans le fond, c'est que selon elle croit que, en fait, elle dit que l'efficacité des sites d'injection en matière de santé publique a été démontrée de manière scientifique, si on veut, et que c'est ce qui les a amenés, dans le fond, à présenter cette position-là. Il existe seulement un centre d'injection supervisé au Canada qui est à Vancouver. Et le centre est comme un projet pilote à Vancouver. Et le projet rencontre quand même certaines difficultés avec le gouvernement fédéral qui a un appui chancelant au projet. Donc, ce sera à voir si au Québec, on est capable de pousser cette initiative-là.
Oui, ce serait intéressant. Il y a une pétition, d'ailleurs, qui circule actuellement pour en faveur, en fait, de centres d'injection supervisés à surveiller. Il y en a qui circulent dans la ville de Québec, d'ailleurs.
Ah, ben c'est super. Donc, si ça vous intéresse, surveillez ça. Ça va sûrement être une lutte intéressante. Autre petite nouvelle au niveau de la déontologie policière, c'est un sujet qui est assez d'actualité ces temps-ci. Le commissaire à la déontologie policière a déposé son rapport annuel la semaine passée et a démontré, dans le fond, qu'il y a eu une augmentation importante des plaintes contre les policiers. Au cours des 5 dernières années, il y a eu une augmentation de 13% des plaintes. Et 80% des plaintes concernent des questions d'abus de pouvoir, des gestes qui auraient miné la confiance des citoyens envers les corps de police. Et autre fait étonnant dans le rapport qui a été déposé la semaine passée, c'est que le nombre de plaintes pour profilage racial contre les policiers a augmenté de 18% au cours de la dernière année.
C'est étonnant.
Étonnant, et 70% de ces plaintes-là, évidemment, ciblent le service de police de la ville de Montréal, où évidemment, il y a plus de questions, de problèmes de tension entre des communautés ethniques. Alors, ce qui est désolant, par contre, c'est que de moins en moins, s'il y a une hausse des plaintes, il y a de moins en moins de policiers qui sont traduits devant le comité de déontologie policière. la moitié moins cette année a été traduit, a comparu devant le comité de déontologie policière et ils n'ont pas de difficulté à obtenir leur pardon parce que 94% des demandes de pardon sont acceptées et les policiers qui ont été blâmés par la déontologie voient leur dossier blanchi. Thank you. Alors, autre petite nouvelle également. Cette fin de semaine, il y avait un article dans Le Devoir qui était signé par, entre autres, Au bas de l'échelle et, entre autres, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, qui critiquait le projet de, en fait, la promesse électorale de l'ADQ et de Mario Dumont d'accorder un montant de 100 $ par semaine pour chaque enfant de moins de 5 ans qui ne fréquente pas les services de garde subventionnés. Alors, ils ont fait une sortie pour critiquer ce projet-là en disant que c'était une recette pour la pauvreté des femmes. C'est comme ça qu'ils...
Décennies.
Oui, c'est ça, en gardant, dans le fond, les femmes, en favorisant le fait que les femmes restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Alors, ce qu'elles critiquent, dans le fond, ce qu'Au bas de l'échelle, entre autres, critique, c'est le fait que c'est comme crucial de maintenir le droit à l'autonomie économique des femmes d'être sur le marché du travail, donc d'avoir accès au marché du travail et donc d'avoir accès à des services de garde qui sont accessibles et qui leur permettent justement de demeurer sur le marché du travail. Puis, et en fait, elle démontre que les services de garde permettent, dans les faits, ont vraiment permis statistiquement d'augmenter le taux d'activité des femmes québécoises sur le marché du travail en 10 ans. Il y a eu une augmentation d'à peu près le 10%. Là, des femmes sur le marché du travail avec cette mesure-là. Et plutôt que d'adopter cette mesure-là, de payer les femmes une allocation si elles n'utilisent pas les services de garde, ce qu'elles proposent, elles, plutôt, c'est de verser un 100 $ par semaine par enfant ou plus, disent-elles, aux femmes qui, dans le fond, ne seraient pas admissibles au régime d'assurance parentale, tu sais, le régime que tu reçois quand tu as un enfant pour prendre un congé parental. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas accessibles à ça parce que soit ils n'ont pas assez travaillé dans les dernières années, ils n'ont pas assez cotisé, fait qu'ils ne peuvent pas avoir accès. Donc, ils proposent justement de verser cet argent-là à ces gens-là, qui ça permettrait, dans le fond, d'assurer genre une prestation minimum à toutes les nouvelles mères, comme ça se fait ailleurs, en Europe, entre autres en Suède, en Finlande, en Allemagne. C'est les mesures qui sont...
C'est super intéressant parce que le régime québécois d'assurance parentale est vraiment très, très, très bien. Il a vraiment été bien accueilli par les groupes de femmes, entre autres. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas accessible. Il reste une certaine catégorie de femmes là, qui ont toujours pas droit. Et c'est le gros problème du régime, parce que sinon, c'est un régime qui est quand même...
qui a vraiment eu un effet bénéfique, je pense, dans un contexte de baby boom. Là, je pense que ça a quand même aidé pas mal. Ouais. Alors, une autre nouvelle au niveau plus international, je voulais vous parler, ça date quand même de peut-être une semaine ou deux, mais a été en conférence à Montréal, un homme qui s'appelle Olivier de Schutter, qui est le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation et qui est venu parler de la crise alimentaire mondiale. On n'en parle pas beaucoup, puis c'est un sujet qui est souvent mis de côté parce qu'on a l'impression que, bon, la faim dans le monde, on a l'impression de tout savoir là-dessus. Mais lui, c'est intéressant la position qu'il avait parce qu'il rappelle que la crise alimentaire mondiale, ça signifie que près de 1 milliard de personnes souffrent de la faim actuellement dans le monde. Donc, c'est quand même une proportion très, très importante. Et il dit que 80% de ces gens-là, ce sont entre autres des petits producteurs de nourriture, soit des petits paysans, des travailleurs sans terre ou des éleveurs de bétail. Donc, c'est des gens qui produisent de la nourriture, mais qui, étonnamment, souffrent de la faim. Et il s'est positionné vraiment contre l'Organisation mondiale du commerce en disant la crise alimentaire, c'est la goutte qui démontre que le système actuel ne fonctionne pas. Il dit que ça serait irresponsable de prétendre que la solution est la libéralisation du commerce, comme le souhaite l'Organisation mondiale du commerce.
C'est en fait la cause du problème.
Mais en fait, c'est ça. Il dit effectivement, la libéralisation du commerce a amené, entre autres, une plus grande vulnérabilité des pays et des producteurs à l'évolution des prix du marché. Ce qui fait en sorte que, en cas de crise, ces pays-là se retrouvent vraiment, s'il y a une augmentation des prix, se retrouvent vraiment plus capables de nourrir leurs gens. La libéralisation, ça l'a, dans le fond, favorisé les multinationales aux dépens des petites exploitations puis des petits producteurs qui représentent quand même 85% des fermes dans le monde encore, là. C'est des tout petits producteurs. Donc, ça amène vraiment une grande vulnérabilité. Il rappelle également que le droit à l'alimentation, ça va de pair avec la question de la souveraineté alimentaire, donc d'être capable de, évidemment, d'avoir de quoi manger, mais d'avoir un revenu suffisant pour payer ses propres agriculteurs, d'avoir des produits qui sont à prix abordables pour les consommateurs. Donc, ça implique que les pays